à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu le 16, 17 et 18 septembre, nous avons assisté au Castelas de Durban à Baume de Venise à la présentation des 56 rendez-vous proposés dans les communes de la Cove. Au micro lors de cette conférence, Dominique Plancher, vice-présidente déléguée au tourisme, à la culture et au patrimoine à la Cove, Michel Grillet, président de l'association Les Courins, partageait le patrimoine, et Stéphanie Collet, responsable du service culture et patrimoine à la Cove. Bonne écoute.
Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et puis, comme elle dit, oui, on a pris de la hauteur et je pense que voilà, ça valait la peine. La petite marche vaut le détour, je crois. Moi, je ne connaissais pas le lieu, donc je suis assez impressionnée. Donc, merci d'être là pour la présentation de ces 39e Journée européenne du patrimoine. Notre beau patrimoine sur nos 25 communes, évidemment. Donc, l'idée, c'était que chaque représentant de la commune présente un petit peu ce qui va se passer sur leur commune pendant ces trois jours de Journée du patrimoine. Alors pourquoi ce lieu? Ça peut-être on va le demander à Stéphanie tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même directement en lien avec le thème de ces journées européennes du patrimoine, donc choisi par l'État, qui est le patrimoine durable. Donc durable, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on trouve, on produit l'énergie sur place, on construit avec ce qu'on a sur place. Ils avaient tout inventé, nos anciens. Ils n'allaient pas chercher ce que nous avons construit. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que nous sommes bien en peine de tout cela. Donc eux, ils utilisaient vraiment tout ce qui était sur place. Ils essayaient de l'exploiter. Vous allez nous le raconter, je pense, au niveau de l'eau, au niveau de la restauration des pierres qu'on réutilise pour restaurer ce patrimoine. Donc je pense que le thème est tout à fait d'actualité, patrimoine environnemental, et nous en avons quand même bon nombre sur notre territoire, des 25 communes. On a des patrimoines emblématiques qui sont classés, comme on dit, majestueusement au titre des monuments historiques, mais on a nombre de petits patrimoines qui vraiment méritent le détour et méritent d'être découverts. Donc ce week-end, c'est l'occasion. Les 25 communes proposent énormément de choses, vous allez le voir, et toujours pour la découverte de ce beau patrimoine qui fait vraiment, je pense, la richesse de notre territoire.
Moi, je voudrais commencer par un remerciement, parce qu'en fait, quand on a démarré, il y a déjà quasiment 8 ans, je réfléchissais tout à l'heure, on s'est adressé en fait à l'intercommunalité, à la Cove, et c'est Stéphanie Collet, la directrice du patrimoine, qui nous a conseillé en premier. Elle nous a accueillis, elle nous a guidés dans les différents rouages. On connaissait rien du tout à l'époque, et on était enthousiastes et on savait pas comment s'y prendre. Voilà. Et donc je voulais remercier Stéphanie Collet à l'occasion de cette présence de tous ici, parce que c'est elle qui nous a beaucoup aidés au démarrage. Voilà. Et donc je la remercie. Alors moi je veux juste vous donner trois notions qui correspondent effectivement au thème de cette année: patrimoine durable et patrimoine vivant. C'est les questions qu'on s'est posées avant même de démarrer nos travaux. Au moment de la fondation de l'association, on s'est dit bon, comment on fait, quelle structure on met en place pour s'attaquer à ce chantier-là, au verger conservatoire en bas, et qu'est-ce qu'on propose effectivement à la commune, puisque tous ces territoires sont des biens communaux. Alors la première notion qui nous a retenu, c'est le fait qu'on est sur des biens communs. Et un bien commun, pour qu'il soit transmis, il faut qu'il soit partagé. Donc on s'est dit, notre association, il faut que ce soit un outil de partage. C'est-à-dire qu'on fait, mais surtout on réfléchit comment le faire partager à d'autres. Aux visiteurs, aux stagiaires, on va en parler tout à l'heure. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit comment on le partage. Ça c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que ce patrimoine culturel, parce que c'est un patrimoine qui est aussi culturel, c'est pas seulement des pierres, c'est aussi une histoire, c'est aussi de la culture qui est inscrite dans ces pierres. Comment ce patrimoine culturel, on s'en sert? Parce qu'on s'est dit, bon, ok, on remonte des murs, etc., mais pourquoi faire? Et on s'est dit, on a pensé tout de suite que ce patrimoine, c'est une ressource potentielle de revenus, d'emplois, de formation, de rencontres, de recherche. Ici, par exemple, on a fait pendant 2 années de suite des expériences sur la fabrication du plâtre, puisqu'il y avait une carrière de gypse. Le seigneur, en 1492, avait édicté des statuts qui donnaient la façon, les règles d'utiliser la carrière de gypse. Et en cueillant des morceaux de gypse, eh bien, on arrive à faire du plâtre à 110 degrés. On a expliqué à tous nos, enfin, on leur a fait faire, tous nos visiteurs, ben, comment ce plâtre il pouvait se fabriquer très simplement. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on fait ici. C'est des expériences. On a aussi travaillé sur la chaux. La chaux, c'est bien plus compliqué parce que c'est 1000 degrés pendant 3 jours et 3 nuits. Donc là, on l'a pas fait, on l'a fait faire dans un four, mais avec des cailloux qu'on a ramassés ici, parce que des cailloux de calcaire, pour essayer de comprendre comment les gens ont commencé à construire ici. Donc voilà, c'est des choses comme ça que l'on fait. Bien sûr, pédagogie, parce que très très vite, on a proposé au lycée de Carpentras-Serre de venir ici comme lieu de stage pour apprendre à faire de la pierre sèche. Et je terminerai cette deuxième notion en disant que ce qui nous a paru très important pour faire vivre toutes ces ressources, etc., c'est de mettre en place une gouvernance adaptée et du coup d'introduire dans notre conseil d'administration non seulement des adhérents individuels, mais aussi des structures. On a dans notre CA des représentants justement du lycée, de la coopérative balméenne, de Ronéa, des AOC, parce qu'on dit que le patrimoine bien commun, il ne doit pas être approprié par une association qui dit « là, c'est chez moi ». Ce n'est pas du tout ça. Nous, on essaye, en mettant ces acteurs-là autour de la table, dans nos conseils d'administration, dans notre conseil d'administration, de justement proposer à la commune, qui est propriétaire des terrains, des actions qui soient conformes à cette notion de bien commun. La dernière chose que je voulais vous dire comme notion, c'est que ce patrimoine, c'est une source d'inspiration. Ça, on l'a inscrit dans nos statuts. C'est une source d'inspiration pour l'avenir. Je vous donne un exemple. Vous parliez de l'eau tout à l'heure. Alors, on ne l'a pas fait ici, on l'a fait en bas dans le verger. On a créé ce verger et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau pour arroser. On a planté des abricotiers anciens, on a planté des capriers, voilà. Et on s'est dit, comment on fait? On n'a pas d'eau. En réalité, on a de l'eau, puisqu'elle est au fond d'Aubune, la source coule sans arrêt, c'est 1000, enfin Jean-Loup qui est là à mesurer le débit, hein, c'est 1000 litres facilement par heure. Donc il y a de l'eau, simplement il fallait la monter en haut. Et là, on a essayé, et c'est effectivement là qu'on peut parler de durable, on a essayé de réfléchir comment les anciens faisaient. Les anciens, ceux du Moyen-Âge, ça a été les premiers à utiliser les ressources, les énergies renouvelables. Eux, ils ont monté des moulins, c'est les ancêtres de nos éoliennes, en fait. Donc, on a utilisé des ânes, comme ressources renouvelables, il y a quand même pas mieux. Alors, c'est des animaux, donc les animaux, il faut qu'ils aient envie de monter, etc. Mais c'est bon, très très sympa. Donc, on a fait des expériences comme ça, avec à la fois des ânes, des capteurs photovoltaïques, mais démontables. Et puis, effectivement, le bélier hydraulique qu'on a reconstruit, qui a été inventé en 1791, abandonné parce que l'électricité est arrivée. À l'époque, si on avait su ce que ça allait nous apporter, on aurait peut-être réfléchi avant de bifurquer comme on l'a fait. Voilà. Donc, je termine là-dessus. C'est ces notions-là qu'on essaye de développer, c'est de se dire que, bien sûr, il ne s'agit pas de se retourner vers le passé en disant « c'était mieux avant », mais simplement, il y a des choses à prendre et à réinventer. Voilà. Je termine en disant que, mais on en parlera peut-être après si vous voulez, on lance une deuxième tranche de travaux ici, à partir de l'année prochaine, c'est la commune qui sera maître d'ouvrage, et la région a bien fait les choses. La région nous impose, en nous donnant une subvention, de faire appel à une souscription pour nous obliger en fait à associer les privés, les mécènes, au travail de restauration, sur la base bien sûr d'actions de médiation. On a par exemple dans l'appel d'offres pour les maçons imposé qu'ils taillent les pierres. On va refaire par exemple l'arc de l'abside, donc on va retailler, on va avoir à retailler des pierres, et on a imposé aux maçons d'inscrire dans leur quantitatif du temps pour organiser ici un chantier participatif de taille de pierre. Vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit chaque fois. On dit, bon, ok, non seulement on fait, mais après, et en même temps, on partage. Voilà, donc cette souscription, ben, elle se lance. Monsieur le maire va bientôt nous fixer une date. Il y a déjà des bulletins, voilà. Et donc, on est à la disposition des maires de toutes les communes pour dire comment nous on a fait, parce qu'en fait ça peut se faire, je pense, dans beaucoup de communes ce qu'on a fait. Il suffit d'aller voir les uns les autres, d'attaquer modestement, et puis chut, on lance la machine et ça marche. Voilà, merci beaucoup.
En fait, c'était en guise d'entraînement qu'on vous a fait monter jusqu'ici ce soir. ça va vous permettre d'être en forme, et parce que attendez-vous ce week-end à accomplir un véritable marathon du patrimoine, tellement il y a de choses à faire et à voir au sein des 25 communes de la Cove. Alors les journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion vraiment de mettre un coup de projecteur et d'ouvrir à tous les citoyens, parce que c'est quelque chose de vraiment bien ancré dans le cœur des Français, ces journées du patrimoine. C'est vraiment le week-end où même les gens qui ne s'intéressent pas au patrimoine le reste de l'année, là, ils vont visiter des choses. Et donc, il faut en proposer pour tous les goûts et pour tous les âges. Et c'est l'occasion de mettre un grand coup de projecteur sur tout ce qui se fait dans les associations. Notamment dans les associations, tous ces passionnés, tous ces bénévoles qui œuvrent au patrimoine, à sa préservation, à sa diffusion tout au long de l'année. Et puis aussi des particuliers, des propriétaires privés, des paroisses aussi qui valorisent leur patrimoine, des municipalités, tout un chacun peut ce jour-là présenter un projet et montrer ce qu'il a envie de partager. Et alors nous, notre brochure à la Cove, parce que nous recensons chaque année tout ce qui se fait sur le territoire de la part de tous ces acteurs, et elle essaye de recenser tout ce qui se passe. Maintenant, des choses ont pu nous échapper, donc excusez-nous si jamais le programme n'est pas exhaustif. Il est le plus possible, en tout cas dans la mesure de nos connaissances. Il se passe des choses quasiment partout. Alors, si on commence, on va aller dans l'ordre alphabétique des communes pour être sûr d'en oublier aucune. À Aubignan, justement, c'est la paroisse, les paroissiens de l'équipe de Notre-Dame-des-Dentelles qui font visiter le clocher de l'église. Donc, vous pouvez monter jusqu'au sommet du clocher. C'est un moment unique hein, dans l'année. Le reste du temps, on ne peut pas. Et ce clocher, il avait été restauré il y a 5 ou 6 ans par un chantier du patrimoine. Baume de Venise, à l'honneur, parce que c'est vraiment l'association qui œuvre le plus dans cette thématique du patrimoine durable et qui a le plus loin, non seulement avancé une réflexion sur le patrimoine durable, mais aussi il l'a traduite dans les gestes. Et c'est pour ça qu'on voulait la mettre à l'honneur ce soir en organisant cette conférence de presse ici. C'est la découverte donc du chantier du Castellas de Durban. Pour l'avoir connu au tout début, ça, à chaque fois que j'y reviens, ça change. C'est le work in progress. Hein, vous savez, il y a toujours des choses qui se transforment, qui s'améliorent, des énigmes archéologiques à résoudre, qu'on résoudra peut-être jamais, mais en tout cas, ça suscite beaucoup de passion et de débats. Et c'est ça qui compte aussi, c'est de continuer à débattre, puisque le patrimoine, il est toujours à découvrir. Autre chose également à Baume de Venise, alors qui n'a rien à voir, je dois l'avouer, avec la thématique donnée par le ministère de la Culture, c'est quelque chose d'entièrement poétique, mais c'est participatif aussi. À la Cove, nous animons aussi le réseau des bibliothèques, et nous avons eu la chance de travailler avec un auteur, écrivain, poète, qui s'appelle Philippe Berthaud, et qui a conçu la notion de territoire-écritoire, et qui nous a proposé de prendre Baume de Venise comme première commune test, mais après, on ne s'arrêtera pas là, on continuera la collection, de proposer d'éditer un petit recueil qui propose aux gens de découvrir le long d'un itinéraire les patrimoines vraiment au sens très large d'une commune, de l'explorer dans tous les sens et d'écrire son ressenti, d'écrire ce qui nous passe par la tête selon des consignes qu'il donne quand il anime des ateliers d'écriture. Mais là, tout est dans un petit recueil qu'on peut parcourir en autonomie. Et donc, c'est le premier livret est sur Baume de Venise. C'est la bibliothèque de Baume de Venise, Nathalie, notre bibliothécaire préférée, qui recevra le public et qui les encadrera. Philippe Berthaud sera présent également. Et vous allez repartir avec votre création, votre production littéraire que vous aurez fait au cours de cette balade. Elle aura lieu le samedi matin et le dimanche matin, les deux matinées. l'Académie proposera de faire la présentation du site d'Aubune, fera visiter la source et fera visiter le jardin médiéval qui est au chevet de cette très belle église romane à Baume de Venise. Et puis l'association de valorisation de l'orgue propose beaucoup de choses, un diaporama qui se déroulera dans l'église avec le fonctionnement, une présentation pédagogique sur comment fonctionne un orgue. À Beaumont-du-Ventoux, c'est une médiatrice de mon équipe, Fabienne Faro, qui fera visiter la chapelle du Saint-Sépulcre. Voilà. Elle est très rarement ouverte au public. Et c'est une occasion aussi, ce week-end, d'aller la voir, de voir l'intérieur de cette chapelle romane. À Bédouin également, un médiateur du patrimoine de l'équipe de la COV, Bernard Allègre, nous replongera au temps des Gallo-Romains, à la villa gallo-romaine des Brins, pour vous raconter la destinée de cet établissement agricole gallo-romain, qui a existé entre le 1er et le 3e siècle. Elle a eu à peu près 300 ans d'activité, cette villa agricole. Et vous apprendrez avec surprise qu'on élevait des bœufs sur le Ventoux. Également, tous les monuments de Bédouin seront ouverts grâce beaucoup à l'association du patrimoine de Bédouin qui se mobilise. Il y aura des gens à la chapelle Notre-Dame du Moustier pour ouvrir et faire redécouvrir cette église où des vitraux contemporains ont été commandés à un artiste qui s'appelle René Guiffret et qui ont été installés il y a un an et demi, deux ans à peu près. Voilà, si vous ne connaissez pas ce travail de vitraux contemporains, je vous invite à y aller aussi, ce sera ouvert les deux après-midi. Il y aura aussi des bénévoles qui accueilleront à l'église, fraîchement restaurée, à l'église du centre de Bédouin, l'église Saint-Pierre, également l'église Saint-Denis du hameau des Baux, qui est rarement ouverte, donc c'est une occasion d'aller la visiter, elle a de très beaux tableaux. La chapelle de Bécaras, chapelle d'époque révolutionnaire, qui commémore les épisodes sanglants de la Révolution à Bédouin. Plus prosaïque, le pavillon de Roland dans le Ventoux, qui est un pavillon des gardes forestiers, qui commémore l'épopée du reboisement du Ventoux. Et puis, les bénévoles de l'association Mémoire de Bédouin et du Ventoux feront également deux visites guidées de l'église et du village en nocturne à la lampe de poche. À Bédouin, on a aussi un très beau monument classé qui est la chapelle romane de la Madeleine, qui est un monument privé. Et les propriétaires qui, depuis des années, s'activent à valoriser ce lieu propose de l'ouvrir, donc elle sera ouverte à la visite libre. Alors tout n'est pas gratuit, hein, c'est pas automatiquement gratuit pendant les journées du patrimoine, notamment les lieux privés ont tout à fait le droit de faire valoir un tarif d'entrée qui sert généralement à la restauration ensuite ou à l'entretien des bâtiments. À Caron, l'église Saint-Maurice, les bénévoles de l'association du patrimoine de Caron feront visiter cette église et également présenter son orgue, puisqu'ils ont aussi la chance d'avoir un orgue très ancien. Et puis, ça c'est une première, c'est inédit cette année, la CAF coopérative Saint-Marc ouvre ses portes. Et à cette occasion, Colline Robert, qui est ici présente, qui travaille dans mon équipe, et Aurélien Gras, qui est là aussi, nous parlerons de l'histoire du vin, de la cave copée, au son de la clarinette d'un artiste musicien qui s'appelle Nicolas Constant, à Carpentras, plein de choses également. Alors, côté du service de la cove, nous remettons le couvert, si je puis dire, de la visite en scène Carpentras 1320. Bon, on l'avait créé en 2020 pour commémorer les 700 ans de la date où Carpentras est devenue capitale du comtat venaissin. Et puis en plein Covid, évidemment, on n'avait pas pu développer pleinement cette visite en scène. Donc on la repasse, même si ce sera les 702 ans de cette célébration, avec les comédiens du Bruit de la Rouille qui ont plus d'un tour dans leur sac et qui vous feront beaucoup rire. Et en même temps, on apprend énormément de choses sur Carpentras au XIVe siècle, mais aussi toute l'histoire de la papauté au XIVe siècle et des relations diplomatico-politico-financières de la papauté au XIVe siècle. Donc, si vous voulez rire un bon coup, venez suivre cette visite en scène Carpentras 1320. Également, nous serons à la synagogue pour une visite en musique, toujours avec le clarinettiste Nicolas Constant, et c'est dans l'équipe Anne Mandrou qui vous fera découvrir la synagogue, accompagnée par tous les bénévoles, qui eux seront ouverts toute la journée. Mais la visite spectacle avec le petit concert, elle a lieu, elle, à 14h. À la Grainetterie Roux, eh bien, c'est moi qui sévirai pour vous ouvrir les portes de ce monument un peu méconnu, qui est un patrimoine industriel. Donc c'est toujours un peu plus ingrat, le patrimoine industriel. C'est vrai que les châteaux, les églises, ça fait spontanément partie du patrimoine de notre imaginaire. Mais il n'y a pas que ça. Et cette usine de traitement des graines et semences, avec ses machines assez fabuleuses, eh bien, c'est aussi un patrimoine. En tout cas, j'essaierai de vous en convaincre. Nous avons évidemment concocté quelque chose pour les enfants, avec un grand jeu de piste qui sera proposé dans la ville. Alors pas que pour les enfants, on peut le faire en famille, hein. C'est même conseillé de le faire en famille. Donc c'est Mélanie Chardon qui, elle, animera samedi tout l'après-midi un jeu de piste avec des défis à relever pour découvrir les principaux monuments de la ville, et le départ se fait de la place d'Anguimbert. Et puis au CIAP, nous ouvrons le CIAP, donc le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est dans l'ancien couvent des Dominicains, qui jouxte l'office de tourisme. Ce sera ouvert pendant les deux jours durant pour vous donner à faire des quiz, des jeux sur le patrimoine, des défis, et puis vous conseiller aussi sur tout ce qu'il y a à faire et à voir durant le week-end, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Voilà pour ce que propose le service. Mais il y a de très nombreux autres acteurs du patrimoine à Carpentras, et en tout premier lieu, bien évidemment, l'Anguimbertine. Il y aura des visites guidées de la bibliothèque-musée. Il y aura une exposition temporaire sur les restaurations les plus insolites des collections bibliographiques qui seront à cette occasion présentées dans leur tout nouvel écrin. Donc ce sera une occasion de voir les œuvres restaurées, redéployées dans des nouvelles vitrines, un petit peu en avant-goût, on va dire, de la réouverture de la partie musée de l'Anguimbertine, qui ouvrira ses portes, on espère, au mois de mai prochain. Il y aura une exposition temporaire dédiée à Marie-Thérèse Chalon. Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Thérèse Chalon. C'est la maman de Jean Chalon. Vous connaissez peut-être l'écrivain Jean Chalon, chroniqueur au Figaro, qui a écrit beaucoup de romans, et il est carpentracien d'origine, cet auteur. Et sa mère, Marie-Thérèse, a écrit un bouquin qui s'appelle Une vie comme un jour, où elle raconte tout son quotidien à Carpentras, donc sur toute la vie au début du XXe siècle à Carpentras. Et c'est Bernard Mondon, autre auteur, figure littéraire de notre territoire, qui viendra faire cette conférence sur Marie-Thérèse Chalon. Et puis à l'Anguimbertine aussi, les enfants pourront s'amuser et faire leur musée avec un jeu de rôle où ils s'amuseront à être muséographes et à essayer d'imaginer ce que sera la présentation muséale dans les salles de l'Anguimbertine. Mais la cathédrale Saint-Siffrin, elle aussi, sera ouverte le dimanche après-midi, ainsi que le trésor de la cathédrale. Donc c'est l'occasion de voir à la fois le bâtiment et puis d'aller là dans la petite pièce qui est rarement ouverte, hein, et où les bénévoles de l'association des Amis de Saint-Siffrin vous feront visiter le trésor. À Crillon-le-Brave, l'église Saint-Pierre sera ouverte à l'occasion d'un concert organisé par l'association Art et Culture, concert classique de piano et violoncelle, avec au programme Bach, Brahms, Mozart, Franck, Schumann et Beethoven. Rien que ça, des sonates. Au Barouf, le château du Barouf vous ouvre ses portes. Maintenant, vous savez qu'il est réouvert. Nous avions fait cette conférence de presse l'année dernière, hein, en ces murs pour mettre à l'honneur sa réouverture après restauration. Et donc, vous pouvez découvrir le château. Et je crois que la propriétaire a prévu un petit jeu pour les enfants également. Mais au Barou, il y a aussi de très beaux moulins. C'est un peu la particularité du Barou, c'est qu'on a encore présent sur la commune des moulins médiévaux du 18e siècle, du 19e siècle, et qui ont été en activité certains jusqu'au 20e siècle. Donc on a un petit peu tout un catalogue des moulins, et moulins à huile, et moulins à blé, à farine. Un qui marche à la force hydraulique, un qu'on appelle le moulin à sang, c'est-à-dire qui marche à la force des bras, hein, à la force animale ou humaine. Donc tous ces moulins seront ouverts et vous pouvez aller les visiter. Alors le moulin à huile du 18e siècle, il est classé monument historique. Et il y a une médiatrice du patrimoine du service, Fabienne, qui le fera visiter le dimanche après-midi. Le moulin à huile Rivet, lui, c'est un moulin privé. C'est sa propriétaire qui ouvre les portes et qui fait visiter le dimanche toute la journée. Et enfin, dans le moulin du Gourédon, eh bien, c'est Marie qui est stagiaire dans le service et qui est spécialiste des moulins et qui s'occupe et qui est chargée de la restauration de ce moulin du Gourédon qui fait partie du fonds de concours, du plan fonds de concours patrimoine de la COV, l'a étudié sous toutes ses coutures et vous le fera visiter. Au Bossé, le samedi matin, l'association des Caladaires fera une démonstration de calade. Voilà, il n'y a pas qu'à Baume qui a des amoureux de la pierre sèche. Il y en a dans beaucoup de communes. Et donc, les Caladaires du Bosset feront une démonstration et ce sera l'inauguration de leur chantier sur lequel ils œuvrent depuis plusieurs années déjà, la calade de la chapelle Saint-Étienne. Et donc, ce sera l'occasion de la découvrir. Et puis, moi, je serai présente pour parler un petit peu technique de la pierre sèche. Au château du Bosset, il y a une exposition d'une artiste plasticienne qui s'appelle Anne Lacouture. On saute à l'autre bout du territoire et maintenant on va à Flassans. Alors à Flassans, on vous propose quelque chose de complètement inédit aussi. C'est un partenariat avec une association alors qui n'est pas de la COV, qui est de l'Île-sur-Sorgue, qui s'appelle Traces de Poètes. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Traces de Poètes, qui fait un excellent travail de valorisation de la poésie et de la littérature contemporaine. Cette année, leur thème principal, c'est le Japon. Et alors, ça a inspiré Colline pour inventer une visite en scène qui s'appelle Mont Fuji, Mont Ventoux. Et puis à Flassans, ben, l'église romane, en partie romane, sera ouverte avec des bénévoles, des paroissiens qui vous accueillent et puis qui vous présenteront le circuit de randonnée qui est très sympa à faire autour de Flassans. C'est une petite balade familiale que je vous recommande si vous marchez modérément ou si vous êtes avec des personnes qui n'aiment pas trop marcher. Elle est vraiment d'un niveau facile. Elle fait tout le tour de Flassans avec des très beaux points de vue là aussi sur le Mont Ventoux. Et elle va de croix de chemin en oratoire parce que Flassans a tout un maillage du territoire avec des oratoires et des croix de chemin qui en plus ont été décorés par un artiste paysan qui s'appelait Gilbert Jouveau. Vous connaissez la famille Jouveau, des pâtissiers de Carpentras. Eh bien, ils sont originaires de Flassans et le grand-père était artiste paysan et il a sculpté des bas-reliefs dans tous ses oratoires. Donc, ça mérite vraiment d'être découvert. Également, si vous voulez grimper jusqu'à la chapelle Saint-Jean, vous aurez bien du mérite et aussi un paroissien est mobilisé là pour vous en ouvrir les portes exceptionnellement. À Gigondas, la chapelle Saint-Côme et Saint-Damien sur les hauteurs juste en face du village. Elle est toute tordue cette chapelle, elle a de graves pathologies, elle est prête à s'effondrer et donc la mairie a un gros projet pour la restaurer. Et du coup, je serai présente le dimanche matin pour vous expliquer en quoi va consister le chantier de restauration de cette chapelle et toutes les études archéologiques du bâti qui ont été faites au préalable et qui ont présidé à ces choix de restauration de la chapelle. Et j'aurai le plaisir d'être accompagnée par Véronika Sobolzewski, qui est une violoncelliste, hein, qui mettra un petit peu de magie dans tout ça. À la Roque-sur-Perne, l'association de la MIL, la Maison de l'Histoire Locale, qui fait un gros travail de mémoire sur le village et également de restauration des retables, des tableaux et des sculptures de l'église, vous ouvrira la maison de l'histoire locale. Et puis à deux pas de là, il y a aussi l'église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, une église romane entièrement cachée dans le bâti enchevêtré de la Roque-sur-Terne, mais qui est très intéressante à découvrir. Et donc les bénévoles de l'association seront là pour assurer ces visites. L'Auriole du Comtat, c'est Hyacinthe qui ira valoriser un peu tout notre patrimoine, on va dire le patrimoine immatériel, enfin quoique c'est aussi un peu matériel, celui des jeux provençaux, les jeux de l'enfance. Les jeux de l'enfance en Provence, quels étaient-ils ces jeux provençaux? À Malocène, tout va être centré autour du patrimoine de l'eau. Et à la médiathèque, vous aurez une exposition sur le thème du patrimoine de l'eau et puis également les peintures d'une artiste, Magda Igierto. En mairie, la mairie sera ouverte avec toutes les associations patrimoniales de la commune qui seront présentes. Ça fera une espèce de grand forum et vous pourrez vous informer sur tout ce que ces associations très actives dans Malocène ont comme projet, des travaux de protection, de mise en valeur des lavoirs et des fontaines. Il y aura également un petit film. Ils présenteront à cette occasion aussi les projets de restauration de la chapelle du Grosseau et des aménagements de la source. Vous savez que les sources aujourd'hui en France doivent être grillagées, puisqu'il faut protéger la pureté de l'eau de toute pollution involontaire ou volontaire qui pourrait être faite. La source du Grosseau devait être grillagée. Alors vous imaginez un peu le saccage de ce lieu patrimonial que ça peut représenter. Donc il y a eu toute une réflexion, tout un travail avec les architectes du CAE pour essayer d'appliquer cette loi, mais dans un moindre mal pour la beauté du site. Donc ce projet vous sera présenté en salle de la mairie là, par les associations aussi qui ont été concertées sur ce projet. Et puis Anne Mandrou, médiatrice au service, vous fera une visite du village au fil du patrimoine de l'eau, entièrement basé sur cette thématique. L'association La Bayassière également, alors ils feront visiter le moulin du vaisseau et le moulin de la plus haute qui font partie du groupe des papeteries. C'est des anciens moulins de production de pâte à papier des papeteries de Malocène. Donc ils seront ouverts à cette occasion-là. C'est également un patrimoine industriel. À Mazan, avec la très active association Culture et Patrimoine de Mazan, Joseph Baruel fera visiter la Maison des Chimères, c'est un ancien hôtel particulier des 16e et 17e siècles dans lequel de magnifiques peintures murales ont été retrouvées. Les propriétaires l'ont très très bien réhabilité, ils ont créé un restaurant, un bar à vin à l'intérieur. Là on pourra monter dans les étages et découvrir tous les vestiges de cet hôtel particulier. À la chapelle Notre-Dame du Bon Remède, Hyacinthe fera le commentaire des travaux de restauration du tableau. À Saint-Didier, à l'Institut Sainte-Garde, qui n'est ouverte que deux fois par an au grand public pour les rendez-vous au jardin et du patrimoine, eh bien, les portes seront ouvertes pour des visites guidées, avec une visite pour les adultes et une visite dédiée spécialement aux enfants de 6 à 12 ans, voilà, adaptée à leur niveau. Moi, je ferai visiter le dimanche après-midi un petit coin dans le clocher, le premier étage de la fusée là, du clocher de Saint-Didier. Vous voyez cet immense clocher pointu. Eh bien, à son premier niveau, on a redécouvert à l'occasion des travaux tout à fait récents de la restauration de ce clocher, une voûte plate mise en œuvre extraordinaire, date du XVIIIe siècle, qui est complètement contemporaine des voûtes plates qui sont dans l'hôtel Dieu de Carpentras. Je subodore que ce seraient les mêmes maîtres d'œuvre, ça ne m'étonnerait vraiment pas, ou en tout cas les mêmes maîtres maçons, parce qu'il y a vraiment des parentés très étroites entre les voûtes plates de l'hôtel Dieu et cette petite voûte plate. Alors elle est vraiment coincée au premier étage du clocher, on y monte par un tout petit escalier à vis. À Sarian, les bénévoles de l'association Dévalpatres, qui veut dire valorisation du patrimoine de l'église de Sarian, vous feront visiter l'église et présenteront une exposition sur toute l'histoire de l'évolution du quartier là, autour de l'église. Et puis à la bibliothèque, les bibliothèques, vous voyez, sont très actives hein, pour les journées du patrimoine. Il y en a plusieurs qui ont fait des choses. Ce sera Lucie Brunet, médiatrice référente numérique du réseau des bibliothèques de la COV, qui, dans une autre vie, a quand même été médiatrice du patrimoine. Et elle a concocté pour les enfants un atelier sur les blasons, sur les armoiries héraldiques. Voilà, donc si vous voulez vous initier à cette technique et puis repartir en ayant créé votre blason, vous pouvez vous joindre à elle à la bibliothèque le samedi après-midi. On fait ça à Sarrian tout simplement parce que lors des travaux de restauration de la Veillade, l'hôtel particulier, l'hôtel de Savonne du XIVe siècle, qui est dans le centre de Sarrian et qui est destiné à accueillir la future médiathèque de Sarrian, là les travaux vont commencer, eh bien ont été mis au jour toute une série de blasons du XVIIe siècle de la famille de Savonne. Des fresques en ras de plafond là, qui sont absolument magnifiques et donc on a de quoi blasonner à Sarrian. À Suzette, il y aura une exposition à la ferme Saint-Martin. Vous connaissez ce domaine viticole qui produit un vin de très bonne qualité et qui en plus a une programmation culturelle tous les étés désormais, faite d'expositions et de concerts. Et là, on termine l'année avec une exposition d'artistes céramistes, Virginie Faguet et Louis Bruder. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Non, c'est parce que Venasque est l'éternel petit dernier quand on fait une présentation par ordre alphabétique, désolé. Venasque, donc, le baptistère, sera à l'honneur. Ce magnifique bâtiment dont on ne sait toujours pas s'il fut un baptistère ou pas, mais en tout cas le mystère permet d'alimenter le débat. Et en tout cas c'est une très très belle bâtisse romane, donc il est ouvert non-stop hein, de 9h le samedi matin jusqu'à 18h30 le dimanche, parce que vous avez la chance à Venasque d'avoir du personnel dédié voilà, à la visite de ce monument. Ouais. Et puis eh bien, Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de l'équipe, avec la violoncelliste Véronika Sobolzewski, feront aussi une visite en musique de 14h à 18h le dimanche.
Retrouvez ce reportage et la conférence dès maintenant en podcast sur notre site internet www.rtvfm.net.